7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, augmentation aujourd'hui du salaire minimum, c'est un bond de 75 cents l'heure, on passe à 12 $.
Eh oui Paul, et je fais des petits calculs pour, on va en discuter. Donc premièrement, évidemment, c'est une hausse de 6,67%. On annonce cette année une hausse de l'inflation en haut de 2% selon les dernières données de la Banque du Canada. Et là, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, on va aller parler du calcul. Si vous travaillez 40 heures au salaire minimum, puis ça, c'est pas garanti parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'emplois au salaire minimum sont à temps partiel ou à 35 heures ou à moins de 40 heures. Mais sur 40 heures, ça donnerait un salaire maximum par année avec deux semaines de vacances de 23 400. Avec l'augmentation, on passerait à 24 960. Donc, 1560 $ de plus brut par année sur une base de 40 heures. Et là, je me suis dit, bon, il y a bien beau avoir le brut. Parlons du net. Je suis allé voir la calculatrice EY, l'ancien Ernst & Young, sur le web. Et j'ai dit, tiens, rentrons ça dans la fiscalité. Eh bien, avec le crédit de base, Paul, on passe de 20 690 net à 21 821 net avant les charges sociales. Ce qui donne finalement 1131 d'augmentation nette et non pas 1500 brut. Donc, tu vois, c'est pas pareil. Et là, je me suis dit, on va pousser ça plus loin. On va se dire, mettons que l'allocation canadienne pour enfants puis les autres allocations ne sont pas indexées. Mais là, j'ai fait le calcul. Deux conjoints salaire minimum avec un enfant de moins de 6 ans se retrouvent à perdre 375 dans l'allocation canadienne pour enfants s'il n'y avait pas d'indexation. Pourquoi je parle de s'il n'y avait pas d'indexation? Parce que, un, il y en a une, Paul. Mais surtout de dire, regardons comment on a beau cibler le salaire minimum tout seul, de faire des manifestations pour le 15 l'heure. Il faut que l'ensemble des données fiscales soient prises en compte pour comprendre c'est quoi l'impact. Tu sais, aux États-Unis, quand on se bat pour 15 $ de l'heure, si on n'a pas de filet social, ben ça, c'est vraiment un chiffre. Mais par État, ça change la réalité. Mais au Québec, les allocations fiscales, l'aide fiscale est élevée. Donc, chaque fois qu'on augmente le salaire minimum, faut pas oublier non plus de manifester pour l'augmentation de tous les autres paramètres fiscaux pour ne pas s'appauvrir.
OK, mais selon tes calculs, là, mettons un couple, je reprends ton exemple, là, deux parents au salaire minimum avec un enfant, au terme de ça, ils se retrouvent avec plus d'argent dans leur poche.
Plus d'argent dans leur poche, tu sais, mais il y avait, tu sais, mettons, selon, avant l'indexation de l'allocation canadienne pour enfants, bon, il y avait quand même 5 600 d'allocation canadienne pour enfants. C'est quand même de l'argent net supplémentaire, et ça, c'est l'autre affaire qu'on calcule pas. C'est que l'allocation canadienne pour enfants, c'est de l'argent net. Donc, c'est vraiment une contribution supplémentaire pour t'aider à payer tes frais d'enfant. Donc, ça aussi, c'est influencé. Tout le reste est influencé. Les garderies sont influencées quand on augmente de salaire. Pas au minimum, mais en général. Et je suis allé voir l'impôt, Paul. À partir de quel salaire on paie de l'impôt de plus? Fait que si la personne gagne 1 $ de plus, son taux marginal d'impôt, il est quand même au Québec là, de 27,53. Et il faudra que la personne gagne au moins 42 700 environ pour que son taux d'impôt marginal, son prochain dollar, augmente à 32,53%. Donc, en somme, il n'y a pas d'augmentation du salaire minimum qui augmente, dans le fond, votre taux marginal d'impôt ou votre taux d'impôt sur le prochain dollar, sauf que vous pouvez perdre des crédits, vous pouvez perdre des avantages et des allocations.
Et c'est pour ça que, pris isolément, la hausse salaire minimum, c'est pas suffisant. Il faut l'harmoniser avec d'autres mesures sociales.
Exactement. Okay. Pour que les autres mesures sociales soient adaptées.
Parfait. Là, on va parler évidemment de cette bataille entre les supermarchés et les compagnies qui nous offrent des boîtes repas.
Et hier, Paul, j'avais une idée. Tu sais, ça m'arrive des fois. Puis là, j'ai dit, comment les épiciers pourraient tuer les boîtes repas? Tu sais, les boîtes repas, on leur dit, il y a du suremballage, il y a de la pollution, il y a de la livraison à domicile pendant l'absence, il y a des coûts plus élevés que l'épicerie. Et l'épicier dit, moi, je me fais manger de la marge par des restaurants qui vous montrent bon restaurant, puis les boîtes Good Food, des Chef Plate et compagnie. Et là, mais je me suis dit, hey, t'es épicier, là, t'as l'avantage, toi. T'as le réseau de distribution, les gens pourraient venir chercher leur boîte à l'épicerie, t'as déjà des livraisons. Alors, pourquoi t'offres pas ce que Good Food offre? Et là, je me dis, ouais, mais attends, là, c'est de l'emballage différent. Non, non. La personne, c'est quoi qu'elle va chercher? C'est la facilité. Donc, si l'épicier prend l'Aubla, par exemple, on fait 3,3% de marge nette. Tu sais, on fait là 46,7 milliards de revenus, mais 1,5 milliard de bénéfices nets. Si cette entreprise-là décide de commencer à faire des épiceries boîte repas, c'est-à-dire qu'au lieu de te faire une boîte repas avec toutes tes mesures, je vais te faire une épicerie ou une commande où la commande est optimisée. C'est-à-dire que je te donne les recettes, je fais une association avec un chef, mettons Danny Saint-Pierre ou Louis-François Marcotte, tu sais, puis je dis, moi là, je vous fais des recettes d'un grand chef, voici la boîte épicerie semaine, tes deux livres de steak haché te permettent de faire deux recettes, voici ton curcuma. En passant ton curcuma, si tu t'abonnes à mes boîtes de semaine, la semaine prochaine, ton restant de curcuma, tu vas pouvoir t'en servir. Donc, tu vois, on pourrait aller chez un intermédiaire. Fournis-moi mon épicerie de la semaine où j'aurai pas de pertes, où j'aurai toutes mes recettes. Et
ben, en fait, c'est le même
mes
principe.
Vont m'en servir.
C'est le même principe que Good Food, où on t'envoie les ingrédients puis les recettes. Là.
Ouais, mais la différence, c'est que Good Food, on t'envoie les ingrédients par oui, recette, oui. En petite quantité, suremballée. Là, je te dirais, hey, je te donne le format familial de poulet. Là. Tu sais, le format familial de poitrine, là, il est dans ta boîte. Il te permet de faire 3 recettes, celui-là, ou 2 recettes. Donc, je ne change pas mes formats d'emballage, je fais juste les agencer, les optimiser avec des recettes goûteuses, et en plus, j'aide les gens à manger différemment, je passe mon épicerie, je fais de la fidélisation beaucoup plus intéressante que les points, et en plus, Paul, je vais chercher quoi? Une marge supplémentaire, parce que les gens sont peut-être prêts à payer 3-4 piastres plus cher leur épicerie pour avoir un système clé en main comme ça, c'est beaucoup moins cher que Good Food, et en plus, Paul, si ta marge est 3,3%, puis tu réussis à vendre une épicerie de 100 ou 200 $, 3-4 piastres de plus, tu viens d'augmenter la marge de l'épicerie, tu viens de fidéliser, tu viens d'optimiser, tu viens de tuer la concurrence, Paul.
C'est ce que je viens de penser.
Quoi?
Après José Di Stasio, après Stefano, puis après Christian Bégin, je pense que je vais voir ta face au-dessus des boîtes chez IGA un jour.
Hey, c'est une bonne... À ma retraite, là, parce que là, tant que je suis chroniqueur économique, tu sais que je fais pas d'association.
Non, je sais, mais...
Mais, hey, optimiser votre épicerie, puis là, rentabiliser tout ça, Paul. Hey, tu passes à mon après-carrière. Fait que le jour où tu me mets dehors, j'ai peut-être une option.
Salut, bonne journée.
Salut.
Eh, Seigneur. 7h23.